Retrouvez-nous sur radiojudaica.be.
Auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous sommes le lundi 8 novembre 2021. Il est 20h et comme tous les lundis à cette heure-ci, on joue la prolongation.
Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud.
Ah, sacré monsieur Foot, c'est toujours présent dans notre esprit, au moins. Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver, en tout cas moi je le suis. Avec moi ce soir, deux chroniqueurs habituels. Alors, est-ce qu'il a raison ou pas ? Un supporter sans doute un peu déçu, mais un supporter croyant dans le process sûrement. Hein. Mais pour combien de temps encore ? Il s'agit bien sûr d'Henri Daniel. Bonsoir Henri, salut.
Salut à tous. J'y crois encore.
T'y crois encore ? Eh ben écoute, il faut. Hein, si tu...
Je sais pas si j'ai raison, comme dit le grand Jojo, mais j'y crois encore.
Voilà, si toi tu n'y crois plus, qui va y croire ?
On va mettre la Fabien la prochaine fois.
Lequel ?
Et en face de lui, un homme heureux, un homme qui, comme John Miles, l'interprète de ce superbe morceau, qui n'a pas su choisir entre différents styles musicaux, parce que c'est un pêle-mêle magnifique cette chanson, un homme qui lui non plus ne veut pas choisir, ou plutôt s'il choisit le beau jeu, c'est le fondateur de l'agence de communication et de marketing sportif Sportimize, Alexandre Demeter. Salut Alex.
Salut Sam. Bonsoir Henri.
Salut Alex.
Ah et ben écoutez, on est ravis, on a un beau programme, un programme qui va être marqué du saut de l'Union, notamment l'Union qui a réalisé encore un week-end formidable et qui a vu un de ses fers de lance récompensé par un appel en sélection. On va vous parler de tout ça au cours de cette émission qui va être riche en enseignements et en moments sympathiques, on l'espère. Sans plus tarder, c'est le coup d'envoi, allons-y. Le coup d'envoi, je vous propose qu'on commence tout de suite, bien sûr, par la Pro League. Hein. La Pro League avec son petit jingle approprié. La Pro League, alors une fois née...
Sans la Jupiler.
Comment ?
Sans la Jupiler.
Sans la Jupiler. on jouait la 14e journée et une fois n'est pas coutume, on va pas commencer par l'Union, parce qu'on va en parler plus tard. L'Union, le leader de la Jupiler Pro League. On va commencer, je vous propose de commencer tout de suite par le match qui opposait hier l'Antwerp à Anderlecht. Et donc le match qui a opposé l'Antwerp à Anderlecht qui s'est conclu sur un score de 2-0 pour les Anversois. Un coup d'arrêt pour les Mauves qui n'avaient pas perdu depuis deux mois, qui n'avaient pas perdu. Et en revanche un redressement un peu assez spectaculaire en tout cas par rapport à ce qui s'est passé cette semaine, puisque les Anversois s'étaient fait étrier, éparpiller sur le terrain par Fenerbahçe. En Ligue Europa à domicile et
sans exister
ouais. Et là il y a eu ça n'a pas du tout été la même mayonnaise comme on peut dire. Un homme a semblé, si ce n'est survoler le match, au moins jouer un rôle prépondérant dans le résultat final. C'est le ninja Raja Nainggolan. Il a sans doute plus la capacité physique et la caisse qu'il avait avant. Mais quel combattant, quel joueur obstiné et talentueux.
Clairement.
Il aurait pu casser le but en deux. 113 km par heure, sa frappe qui s'est écrasée complètement sur la latte. Un joueur qui renaît un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match et des résultats déjà toujours aussi ternes d'Anderlecht ?
Il y a deux choses. Anderlecht a joué quand même contre le second du championnat.
C'est vrai.
Donc il faut modérer un petit peu. Je pense que par contre, les résultats globaux, c'est vraiment largement en dessous des espérances et du talent et de l'équipe qui est mise sur le terrain.
Surtout qu'il y a même un point de moins que l'année passée.
C'est gentil de préciser.
Un point de moins qu'à
la même époque.
À la même époque et l'an passé, il y avait le process qui se mettait en place. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ça n'avance pas tellement côté Vincent Kompany.
Ça avance sur le terrain, mais ça avance pas dans les résultats, je trouve.
Ouais,
je trouve qu'il y a une certaine stabilité. Ils ont un petit peu remanié le process parce que les jeunes sont un petit peu mis de côté et puis il a réussi à avoir une structure plus stable, je trouve, les dernières semaines dans la compétition, dans le
Ouais.
L'armature, on va dire, de l'équipe.
Oui, parce qu'il avait reconduit au milieu de terrain. Donc, il y avait Verskaren, Aydelhadj.
Il a mis les deux attaquants aussi.
Et les deux attaquants.
Les gens 4-4-2.
Voilà. Kwame et Sirkzé. Donc, exit Refaelov depuis quelques semaines.
Amouzou.
Il monte au jeu, Amouzou aussi. Malgré tout.
La confiance continue à Olsen, donc la paire centrale Oud et.
Olsen.
Olsen, Kullen au milieu.
Kullen, voilà.
Et dans l'axe. Oud et Harold Bellis. J'ai toujours du mal avec lui.
Ouais.
Et puis il a réintroduit Sardella qui était là pour pallier la suspension plutôt de Mourinho.
Donc.
Il y a de la suite dans les idées, mais le résultat n'y est pas. Quoi. Puis surtout, il y a évidemment le score de 2-0 contre l'Antwerp. Je trouve que ce qui s'est passé les semaines avant, c'est plus inquiétant, je trouve.
Ouais, c'est pas ce match-là qui t'inquiète le plus.
Je sais pas ce que vous en pensez. Mais...
Ouais, Alex, toi, tu. Sur,
c'est-à-dire que l'accumulation des matchs nuls, c'est
difficile, ouais. C'est difficile de juger. Après, voilà, le match nul, si tu ne peux pas gagner un match, tu dois essayer de ne pas le perdre. Mais non, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a un recrutement. Je pense qu'il a été fait par Peter Verbeek pour justement masquer ou bien en tout cas éviter les carences de l'année passée. C'est à savoir un manque d'expérience à certains moments clés. Parce que le talent, il est là, personne n'en doute. Mais cette expérience, elle manquait. Et là, finalement, tu te retrouves avec moins de points. Donc d'un point de vue arithmétique, ce n'est pas tout à fait ce qu'ils attendaient non plus. Et j'ai l'impression que le championnat cette année, il est aussi plus compact. Il est plus homogène. Les équipes se valent beaucoup plus aussi. Quand tu vois Gand qui va à Serein, c'est 0-0. L'Union va gagner à Gand la semaine dernière, même si Gand a eu nettement des occasions pour remporter elle-même le match. Tout se passe sur des détails. Et c'est ces détails-là, justement, qu'Anderlecht rate le coche. Et ils l'ont raté aussi en Europa, en Conference League. C'était sur un détail aussi.
Donc sur deux détails, sur le match aller et le match retour.
Oui, mais je veux dire, c'est des faits de match individuels qui, à chaque fois, sont conséquents.
Ce qui m'attriste, c'est que le match commence avec la connaissance des autres résultats. Donc une victoire les amène à la troisième ou quatrième place. Et on n'a pas senti qu'ils avaient cette soif.
Que
rendez-vous à enfin, d'une occasion qu'ils n'auront peut-être plus.
Ça ne leur a pas apporté le supplément.
Comme disait Alex, le classement est tellement compact que la victoire d'Anderlecht aurait fait qu'ils auraient rattrapé l'Antwerp, en fait. Ils auraient terminé quatrième. Ils auraient été troisième, quatrième du championnat. Donc je pense que si ça ne suffit pas comme motivation, avec les matchs nuls qui avaient été enchaînés, évidemment, il y a des matchs nuls comme contre Rachel quand on est à 10 et quand les dernières minutes de match sont complètement folles. On se dit qu'on a gagné un point, mais en fait, au niveau comptable, on a perdu deux, quoi.
Oui, et de l'autre côté, l'Antwerp qui naviguait un peu.
Qui n'était pas en confiance.
Ouais, naviguait un peu à vue depuis le début du championnat. Enfin, n'était pas aussi bien qu'il n'avait fini le championnat, disons, qui a pris une rouste face à Fenerbahçe en milieu de semaine et qui réussit.
Je crois que là, tu l'as dit, la différence, c'est Ninja.
Hein. Oui, ouais, il fait une grosse différence. Il doit donner.
Entre mercredi et en tout cas dans la Grinta, c'est clairement.
Il donne de la confiance à ses jeunes coéquipiers. Il y a Duomo, notamment, qui est un tout jeune, qui a été aligné avec lui au milieu de terrain. Et c'est vrai qu'avoir un joueur... Yves Telderman dans la DH qui dit que si Rajan avait été mauve, il n'y aurait jamais eu 2-0.
Et on peut écouter son avis. Hein. C'est quelqu'un qui suit le Sporting d'Anderlecht depuis longtemps, et qui connaît très bien les arcanes.
Et c'est vrai que quand on voit... peut-être un petit peu un manque de... En tout cas, hier, Olsson et Kullen ont été un peu transparents. Ils n'ont pas eu l'impact, peut-être.
Aucune initiative.
Qu'on attend d'eux, ouais.
Je les ai trouvés très prudents quand ils ont joué. Ils ont joué juste, mais aucune initiative, aucune prise de risque, je trouve.
Ouais.
Ça manque un peu, peut-être, parce qu'Aaron aussi était un peu effacé. Peut-être que finalement, évidemment, après coup, c'est facile à dire, mais peut-être que quand même faire monter Rafaelov à l'Inter dans son ancien stade à 10 minutes de la fin, c'est peut-être pas... le bon choix, quoi.
Mais il a été applaudi.
Ouais,
c'est remarquable quand même.
Tu penses qu'il aurait dû être, il aurait dû le faire monter plus tôt.
J'ai l'impression. Ouais. 10 minutes pour un créatif,
c'est vrai que c'est rarement suffisant pour pouvoir ou alors.
C'est des gens qui essayent des choses qui ont du déchet, donc ils doivent essayer 5-6 fois. Mais c'est pas grave s'ils ratent, parce que la cinquième fois elle va passer, ça va être une occasion ou un but.
Ouais.
Donc, quand tu lui mets que 10 minutes dans un match où le score est déjà acquis, parce qu'ils ont deux occasions en fin de match. Par Amouzou et par Kullen, d'ailleurs.
Oui. qui...
Mais c'est trop tard, beaucoup trop tard.
Côté Antwerp, une belle colonne vertébrale, j'ai envie de dire. Le gardien de but, Buté, qui fait un beau match, parce qu'il arrête notamment quelques occasions, quelques tentatives.
Juste avant le premier goal, hein, ouais, une tête de Kouamé, mais qui est centrale hein, quand même.
Mais il fait l'arrêt. On l'a dit, Nainggolan, sentinelle, en tout cas milieu de terrain, qui réussit à bien rayonner sur le reste, et frais. Frey de avant-centre qui a marqué
à l'arrache hein.
Ouais, et 14e but, deuxième assist de la saison. Alors il a loupé son penalty, ou plutôt il a été bien arrêté, il a réussi à bien le suivre pour propulser le ballon au fond des filets.
C'est quand même lui qui provoque le penalty aussi hein.
Ouais. Ouais non,
donc il est sur l'action quand même.
C'est un penalty, on va pas polémiquer dessus, l'image elle est nette, mais c'est vrai que est-ce qu'il avait perdu le contrôle du ballon ou pas pour... On ne sait pas. Bon, on va pas.
Il y a des... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'Antwerp en face. Et c'est pas une équipe, de manchots, j'ai envie de dire. Donc, t'as un bloc envers soi qui est assez compact, qui est dur à battre, même s'il restait sur deux performances un tout petit peu moins bonnes. Mais Fenerbahçe Europa League et ils jouent Francfort et l'Olympiakos dans le même groupe, c'est pas des cadeaux.
Non, c'est vrai.
Et ils se sont fait surprendre par Westerlo, qui est leader avec trois longueurs d'avance, sur tout le reste en division 1B aussi. Une équipe qui a. Qui a le vent aux poupes, qui est ultra motivé, et je l'ai connu l'année passée, c'est très compliqué d'aller affronter une telle équipe pour l'Antwerp. Surtout si tu joues avec une équipe semi-B,
ouais.
tu te fais mettre dehors.
Un petit détail, en Coupe d'Europe cette semaine, ils jouaient à huis clos, ils jouaient dans un stade vide qui était une drôle...
Ce qui justement rend la tâche encore plus difficile pour l'Antwerp, c'était à domicile.
Absolument.
Donc sans leurs supporters, face au Fenerbahçe, même si ce n'est pas le Fenerbahçe dont on se souvient d'il y a 10 ans... Ça reste une énorme écurie en Turquie. Et ils ne sont pas là pour faire de la figuration non plus.
Ils n'en ont pas fait.
Ouais. Oui, et puis c'est vrai que pour ces clubs, la Ligue Europa est un bon moyen de se montrer quand on est un petit peu en deçà dans son championnat.
L'Inter, c'est l'inverse, parce qu'il se retrouve deuxième finalement.
Ouais. Frey, un petit mot sur cet attaquant qui.
Bah déjà, il avait sauvé Saint-Tron l'année passée.
Ouais.
Beveron.
Ouais.
C'est pas la dernière connerie que j'ai dit.
Ne t'inquiète pas.
Mais Frey est un type d'attaquant. Tu le mets à l'Antwerp, ils sont deuxième. Tu l'aurais mis à Gand, je pense qu'il serait aussi beaucoup plus haut classé. Donc il a pas.
André, tu aurais reçu le ballon.
Ça, c'est un autre problème. Mais c'est un renard des surfaces. Il trouve la faille, donc il s'est bien trouvé en verse. Mais comme je disais, s'il allait ailleurs, c'était une autre équipe qui allait grappiller plus de points.
Bon, bah écoutez, on laisse. Ça va faire du bien peut-être à cette équipe d'Anderlecht, la trêve. D'autant qu'il n'y a pas de joueur anderlechtois belge, en tout cas, concerné par.
Pas cette fois-ci.
Ça va leur faire du bien une petite trêve internationale pour repartir du bon pied. Je vous propose qu'on passe au gros match, au très gros match de cette journée. Le Club de Bruges contre le Standard. Il y a un surnom pour ce match ou pas d'ailleurs ?
Non, c'est pas un classico.
C'est pas un topper, pourtant, c'est pas un classique.
C'est un classique, mais c'est pas un classico.
C'est pas un classico.
C'est pas un derby wallon.
C'est un derby belge, la meilleure équipe de Flandre contre la meilleure équipe wallonne.
C'est vrai, ça se place là. Les deux clubs ont fait d'ailleurs match nul, un partage 2-2, alors que le Club de Bruges menait 2-0 après seulement 35 minutes. Je voulais faire noter une chose, le Club de Bruges, c'était... apprêté ses plus beaux atours, puisque c'était un maillot qui, moi, m'a rappelé la première fois où j'avais entendu parler de Bruges.
Avec Papin.
Avec Papin, exactement. Le maillot de Papin du Bruges 85.
Bleu marine, les manches bleu ciel.
Ouais, c'était assez sympa à voir. C'est un maillot rétro ou
revisité.
C'est une édition spéciale pour les 130 ans du Club de Bruges qui fête incessamment sous peu. Et donc, c'est uniquement pour l'instant ce match contre le Standard qu'ils avaient prévu de le porter. Donc, le maillot, quand on le voit de loin, il est beau. Il y a le bleu marine, ouais, il y a les manches qui sont en sillant ou en bleu plus clair. Et surtout, dans le maillot, il y a tous les titres qui sont sublimés en trois colonnes de la face avant et la face arrière. Donc c'est un beaucoup marketing du Club de Bruges.
Moi ça me rappelle un bon souvenir parce que c'est avec ce maillot-là qu'ils ont perdu le test match contre Anderlecht pour le titre.
C'est en 86, donc c'est fort probable parce que c'est un maillot qui a été utilisé de 84 à 87 si je ne me trompe pas.
Et moi je trouve ça sympa de temps
des
en temps.
Revival.
Les revivals comme ça, ouais, c'est en basket surtout, ils avaient fait ça en NBA. Ils avaient fait pas mal de maillots rétro Et c'est vrai que c'est sympa de voir les...
Si on parle maillot, il y a le short d'une... Ouais. Du PSG qui joue avec un short,
un short de basket quasiment, ouais, c'est vrai. Bah, ils sont sponsorisés par la...
Par Magic Johnson. Par
Michael Jordan.
Mais Michael Jordan.
Ouais.
J'ai dit que ce serait pas la seule connerie.
C'est, c'est maillot, c'est une bonne idée pour un thème d'émission, pourquoi pas.
Ouais, c'est exactement. C'est
le rétro fonctionne très très bien, et surtout le troisième et quatrième jeu de maillot pour l'instant, c'est un... Outre le merchandising et ce qu'il rapporte, c'est aussi très important pour l'image du club de garder ses valeurs, son histoire, de rapprocher ses supporters, de faire plaisir à ses supporters qui sont un peu plus âgés.
Oui, parce qu'on se plaint souvent. Alors, c'est plus facile pour moi d'en parler parce que le club que je supporte, le Paris Saint-Germain, est tout à fait l'exemple type de ça. C'est-à-dire que c'est un club non pas qui a renié son histoire, mais qui veut aller de l'avant et qui ne fait pas grand cas de ce qui s'est passé en arrière. Et donc il y a souvent des critiques, des plaintes des supporters un petit peu historiques qui disent bah, on perd nos couleurs si on met tel ou tel maillot, on oublie l'histoire du club. Et c'est vrai que de temps en temps, alors on peut comprendre les impératifs marketing, ce que veut faire la nouvelle direction, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est vrai que de temps en temps, voir réapparaître quasiment à l'identique un maillot qui a fait... Le bonheur du club, ça fait plaisir.
D'ailleurs, c'est une grosse critique qui avait été faite à Marco quand il est arrivé à Anderlecht, c'est de le maillot avait été changé, les supporters, enfin, donc, c'était plus Adidas, c'était plus sponsor comme la Société Générale ou Bellevue, il n'y avait que deux sponsors en 50 ans. Il est arrivé avec, en changeant de l'équipementier, en changeant le sponsor principal, ça a vraiment beaucoup choqué. D'ailleurs, ça a contribué à ce que disait Steve souvent ici, ouais, au micro, c'est de ne pas s'identifier au club.
Mais c'est vrai que c'est un moyen d'identification fort.
Mais surtout c'est... après Anderlecht, par exemple, comme tu en parles, après autant d'années Adidas, d'aller prendre une marque comme Joma, qui n'est pas forcément la plus populaire, qui n'est pas forcément la plus répandue, même si, ça il faut le préciser, en Espagne, en Italie, il y a plusieurs clubs qui ont Joma. Je me rappelle, Rayo Vallecano, par exemple, dans les années 2000, ils avaient Joma, et Joma est une très très bonne marque en Espagne. Mais une fois que tu arrives en Belgique, ceux qui détiennent les droits en Belgique, je travaille avec eux, c'est pas un cadeau. Et en plus, le design, maintenant qu'on voit Anderlecht, c'est pas terrible. Ils ont sorti aussi un troisième maillot gold il y a deux semaines. Ça ressemble très très fort. Et quand on lit les supporters d'Anderlecht, c'est exactement le même, quasiment le même maillot,
juste le flocage,
que le maillot à domicile. Donc il y a de quoi se poser des questions. Mais Anderlecht a été des décennies auprès d'Adidas. C'est un culte presque. Ouais. Il y a des supporters d'Anderlecht qui ont 40 ans aujourd'hui, qui n'ont connu que ça. Et donc, effectivement, le fait de changer pour des impératifs financiers ou du copinage, chacun peut en juger, de changer de marque comme ça,
ça
nuit un tout petit peu à l'image, mais surtout à la fidélité de certains supporters. Et c'est une demande de critique.
Moi, je veux dire quelque chose, c'est que c'était pas le cas il y a quelques années, mais maintenant, les jeunes en tout cas, portent le maillot de foot au quotidien. Comme t-shirt, ce qui se faisait pas quand moi j'étais jeune. Et quand t'as un t-shirt Adidas, c'est branché. Quand t'as un t-shirt Joma,
c'est vrai, ça l'est sans doute moins. Mais c'est vrai qu'on pourra faire une émission, c'est intéressant, une émission sur les maillots. Et tu dis quelque chose de tout à fait juste, Henri, sur le fait que les jeunes portent de plus en plus de maillots dans le civil, je dirais. Et je crois que c'est ce qui a poussé notamment la NBA à autoriser les maillots avec des manches. Normalement, c'est sans manches. Parce que forcément, un maillot qui est sans manches, c'est difficile à porter au quotidien. C'est en tout cas moins facile qu'un maillot avec des manches courtes. Donc, comme quoi, les impératifs.
Moi, j'étais en vacances récemment. J'étais en Espagne, dans les Canaries, dans un hôtel où je raconte ma vie, où il y avait beaucoup d'Anglais. Ils avaient tous le maillot de leur club. Ouais, hein. Mais des gens plus âgés que moi, donc des vieux, quoi, vraiment.
Écoute.
C'est vrai.
Mais le maillot, c'est porter les couleurs de son club avec fierté. Et il y a beaucoup de clubs qui créent des maillots spécifiquement justement pour ce urban, ce streetwear, pour justement, c'est un moyen de promotion aussi.
Ouais. Joma, franchement, ça ne le fait pas.
À chacun d'en juger.
Allez, passons au match. Ce match, Club de Bruges standard, je ne vais pas le résumer à ça, mais une histoire de gardien quand même. 4 buts inscrits. Sur les 4 buts, on peut dire que 3 peuvent être mis sur le dos des gardiens. Le premier but de
Baudard le prend pour lui.
Baudard, il le prend pour lui. Voilà.
Je serais plus indulgent que ça.
Mais c'est surtout...
Parce qu'il y a un défenseur qui pousse l'attaquant sur Bodard qui bousculait.
C'est vrai, mais...
Mais il n'est pas ferme, effectivement.
Voilà,
Mais lui, il le prend pour lui, il assume le goal.
Parce que Bas Dost, oui, marque un petit peu, pas par hasard, mais on voit...
Un petit peu quand même.
Oui, parce que si on regarde le ralenti, on le voit chercher le ballon des yeux. C'est toujours marrant, quand un joueur vient de toucher le ballon, il le cherche des yeux, on voit qu'il ne sait pas du tout où il en est, et puis le ballon rentre dans le but. Et ça permet, ça a permis à Bruges d'ouvrir le score. Ils ouvrent le score, ils mettent un super deuxième but, en tout cas une belle reprise de volée magnifique de Charles de Ketelaar à l'entrée de la surface. Il fait le petit pas de replacement superbe pour se dégager, il met une volée du gauche super. On est à 0-2 à la 35e et on pense...
On n'est pas loin du 3, justement.
Ouais, on n'est pas loin du 3. On pense alors que le FC Bruges va s'imposer, peut-être tranquillement, que déjà le FC Bruges va arriver à la mi-temps avec cette avance, ce qui ne va pas être le cas, puisque c'est là que commence le show, entre guillemets. J'ai pas envie de même ses coéquipiers ne voulaient pas le... Enfin, c'est encore plus logique de la part de ses coéquipiers, mais ils ont surtout dit ne pas le charger, parce qu'il a fait gagner beaucoup de points, mais Mignolet va se tromper et va se trouver largement sur la première action où
Denoum.
Denoum, le Norvégien, Aaron Denoum qui le devance. Alors il fait une sortie très très loin de ses buts en pensant sans doute qu'il va réussir à avoir le ballon. Il se rend compte assez rapidement qu'il va pas l'avoir et donc l'attaquant.
Il continue quand même.
Ouais, mais au moins il a le bon goût de pas accrocher son l'attaquant.
Il manquerait plus que ça. il sort à 30 mètres de ses buts quand il y a deux défenseurs qui
c'est
sont sur
qui
le seul joueur du temps-là. On est à du 3 contre 1 défensivement parlant.
Ouais.
Jamais le joueur peut 1. S'emparer du ballon. 2. S'il s'empare du ballon, jamais il peut passer 3 Brugeois. C'est une erreur professionnelle, ce but.
Et
elle nuit gravement, parce que comme tu dis, juste avant, à l'occasion de faire 3-0, il bute sur Bodard, qui lui, justement, je trouve très mature dans ses réactions, dans son match, dans ses réactions aussi sur le terrain, après avoir encaissé les deux buts. Parce que le Standard qui va à Bruges, qui encaisse deux buts, on a déjà vu des 4-0 et des 7-1.
Oui, c'est ça. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce que disaient les joueurs de Bruges. Mata, notamment, disait la différence qu'on a avec les grands clubs européens et ce qui doit nous inspirer, c'est que quand ces grands clubs ont la possibilité de tuer le match, ils n'hésitent pas, ils mettent le troisième, le quatrième, et tant qu'il en faut. Là, le club de Bruges a buté sur Bodard, et rapidement après, le 2-0 se transforme en 2-1. Et comme tu le disais, c'est vrai qu'il est seul. Normalement, c'est une supériorité défensive qui doit être gérée facilement, et en tout cas, le gardien... on se demande un peu pourquoi est-ce qu'il sort si loin. Peut-être qu'il
le commentateur à la RTB dit oui, mais une fois qu'il a démarré, il doit aller au bout de son truc. Mais il ne doit pas démarrer.
Oui,
il n'y avait aucune raison particulière. La balle est encore dans le camp du Standard.
Ouais.
Parfois on juge, en tant que gardien, on juge mal où va aller le ballon, à quelle vitesse il va, où est-ce qu'il pourrait l'intercepter. Et s'il sort, quand bien même, est-ce que Mechelen ne sait pas récupérer le ballon et faire une passe en retrait et écarter tout danger? Maintenant, Mignolet a aussi cette tendance de vouloir et de devoir sortir un tout petit peu plus fréquemment que les autres gardiens.
Ouais.
Je sais pas si vous avez revu les images. Il touche deux fois la balle de Denoum, hein. Une fois pour s'écarter, une fois pour la mettre dedans. Hein. C'est pas qu'il fait un exploit.
Non, c'est vrai qu'il a le... Et quand on revoit ça, on se dit qu'effectivement, il serait resté 20 mètres plus bas, Mignolet. Il y avait quasiment aucun danger. Et donc,
je pense que pour une fois, même s'il s'arrête en cours de route, c'est quasi impossible, à part dans FIFA, de le lobber de là.
Ouais, c'est ça. C'est
étonnante erreur.
C'est vrai qu'il a une tendance à vouloir sortir. Est-ce qu'il ne s'est pas senti assez concerné par le match jusqu'alors? Il s'est dit qu'il fallait qu'il se...
Non, il le fait chaque fois, je crois. Dans tous les matchs, on le voit devant son rectangle régulièrement.
Il le fait souvent. Et contre Dane, ça passe. Et contre je ne sais plus qui avant, c'est bien passé aussi. Et effectivement, maintenant, ça ne passe pas. Il commence à avoir un petit doute. Et là, il faut se mettre dans la tête du gardien aussi ou du joueur. C'est assez compliqué de se douter ou de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment. Mais là, sur le 2-2, pour moi, il ne doit pas sortir non plus. Il y a plus qu'assez de Brugeois devant pour éviter toute sortie ou quoi que ce soit.
Oui, parce que du coup, on passe d'un 2-0 avec une rentrée au vestiaire qui s'annonce et donc une deuxième partie de match plutôt, enfin peut-être plus facile à jouer. On passe de ça à un 2-1 avec justement le momentum se retourne et ce sont les Standardmen qui rentrent au vestiaire. Regonflé de confiance. Le discours de l'entraîneur a dû apporter ses fruits, semble-t-il, puisqu'ils reviennent sur le terrain conquérant. Et il va y avoir, on se demandait ce qu'il pouvait bien y avoir dans la tête de Simon Mignolet ou de tout gardien qui fait des erreurs, une si grossière erreur. Bah lui, en tout cas, il n'a pas réussi à surpasser visiblement ça au cours de ce match. Il n'a pas réussi à revenir dans son match. Il fait, comme tu le dis, une sortie un petit peu hasardeuse, pour le moins, au cours de laquelle il cause un pénalty, une faute qui entraîne un pénalty que Noé Dussen va réussir à marquer. Et donc, on est à deux partout. Une simontada, comme tu l'as dit, la remontada.
Au-delà des erreurs, au-delà du fait que Bruges fasse 2-2, ce qui m'inquiétait en regardant le match, Rica est monté. Il n'est pas forcément dans les papiers du coach, j'ai l'impression, vu que c'est quand même pour moi un joueur, il vient de Malaga, il a quand même joué en Espagne, il sait ce qu'il doit faire, il est international uruguayen où il était. Et finalement, il veut faire une entrée en touche, il n'y a personne qui se libère. Il n'y a aucun joueur qui vient demander le ballon. Il n'y a aucun joueur qui se démarque. Et même dans les actions offensives, on a l'habitude que Mata va déborder sur le flanc, ou en tout cas vers la ligne, et Vormer. Mais ils attendent tous les deux le ballon où ils sont. Il n'y a personne qui vient le demander. Et ça, j'ai l'impression que ça devient symptomatique pour le club de Bruges, qui a quand même une équipe qui devrait survoler le championnat.
Ouais, moi, c'est comme ça que je le sens moins fort que l'année passée, parce que en confiance... L'année passée, quand ils avaient des scores accrochés, ils étaient confiants, ils savaient qu'ils allaient continuer leur football, ils allaient passer devant un moment ou un autre en fin de match.
Ouais.
Tandis que là, ils passent pas au-dessus, quoi.
Et tu dis, on sentait qu'ils allaient passer devant en fin de match, et avant même au niveau du championnat, quand à un moment ils n'étaient pas tout à fait leaders, on sentait qu'il y a un moment où ils
On allaient... a parlé quand ils ont pris le 6-1 à la Gantoise, on dit...
Oui,
la semaine d'après, ils font un carton.
Et c'est vrai que cette saison, c'est un petit peu, on peut s'interroger un peu plus, hein, parce qu'on l'a dit, on l'a répété, tu l'as encore dit, ils semblent avoir une marge d'avance sur le reste des équipes, mais ils le démontrent pas vraiment. Et le nombre de fois où il y a des accros devient de plus en plus, se répète de plus en plus souvent. Alors à chaque fois que le club fait un résultat qui est, disons, pas satisfaisant, à chaque fois, ou presque, c'est en raison d'un mauvais match individuel aussi. Il y a des erreurs individuelles, mais collectivement, on a senti depuis un mois peut-être, ou trois semaines, que les deux stars de l'avant, Noah Lang et Charles de Ketelaar, avaient un peu baissé de pied. Et là, il suffit qu'il y ait une petite faille, un petit accroc pour que l'édifice tombe pas complètement. Hein,
mais... L'année passée, le groupe rattrapait les erreurs individuelles.
Ouais.
Ici, on a l'impression que quand il y a une erreur individuelle, c'est tout le groupe qui s'effondre.
Et j'ai relevé une phrase assez intéressante de Mata, qui a dit, il voulait protéger Mignolet. Il a dit, bon, ça arrive, il fait une erreur, il passe à côté de son match. Moi-même, je suis passé à côté de mon match contre Gand, et au prochain match, ce sera quelqu'un d'autre qui passera à côté de son match.
Ça devrait pas.
Oui, mais c'est ça, c'est comme si c'était inéluctable qu'il allait y avoir forcément un joueur qui allait passer à côté du match, faire des erreurs individuelles. Alors, comme tu le disais, tant que le club collectivement réussissait à rattraper tout ça, c'était pas problématique. Mais là,
j'ai l'impression que l'année passée, ils auraient pris un 2-2. Au moment du 2-2, ils n'auraient pas pris un coup sur la tête. Ils ont dit, OK, on sait ce qu'on doit faire.
Et
là, ils ont pris un 2-2, c'était...
Je suis quasi sûr qu'entre-temps, les autres équipes savent comment déjouer le système Clément. C'est et sûr. Ils le savent déjà depuis un an.
C'est vrai.
Oui. Et si se rajoute à...
C'est même la troisième année où ils jouent le même système.
Oui, je pense que c'est la cinquième année qu'ils jouent le même système. Mais à Bruges, c'est la troisième, effectivement. Mais j'ai l'impression, déjà depuis un an, Bruges a eu un passage à vide aussi. On l'a vu au même moment l'année passée, et puis après, en février. Mais le système Clément, pour moi, il est déjoué. En play-off, c'est la bérésine. Mais le système Clément, pour moi, il est déjoué par l'adversaire. Ils savent exactement où se placer, où récupérer le ballon et comment faire mal au club de Bruges. Si ça se rajoute à un Noah Lang qui est suspendu et en méforme, et je pense, ou je soupçonne, un petit peu frustré aussi, qui ne sait pas déployer son jeu habituel que les dernières semaines, là, tu dois commencer à compter comme qu'on courterait sur un Ruud Vormer avec une envie de revanche face à son entraîneur. Tu dois compter sur un Charles de Ketelaar qui va faire une action, une étincelle, quelque chose pour marquer le but de la victoire. Tu vas compter à Saint-Tron sur un Dost qui avait les mêmes sentiments revanchards que Vormer quelques semaines auparavant. Là, tu gagnes des points. Mais globalement, j'ai pas l'impression que tout ça mélangé à, j'ai peut-être l'impression, un manque de motivation dans le championnat belge.
C'est peut-être maintenant qu'on verra si Clément est vraiment un grand entraîneur. Quoi, si...
Est-ce que peut-être est-ce que le fait de surperformer sans être hautain vis-à-vis de Bruges, mais de surperformer en Ligue des Champions, parce que on connaît beaucoup de supporters de Bruges qui disaient si on a un point à la fin du
Salut Didier,
si on a un point à la fin de la phase de poule, on sera content. Ils en ont quatre et ils sont encore en piste pour se qualifier pour les huitièmes, sans doute plus pour les 16e de Ligue Europa. Est-ce que ça a pu, est-ce que c'est pas finalement le très grand rendez-vous qu'on attend et ça enlève un petit peu de
Si c'est le cas, c'est inconscient.
C'est vrai.
Il faut se dire, en tant que footballeur, tu montes sur un terrain, tu as envie de gagner le match. N'importe qui. Même si Sam, quand tu étais petit, tu allais sur la cour de récré, tu n'allais pas pour dire je vais jouer. Tu voulais gagner quoi qu'il arrive. Donc je pense qu'inconsciemment, dans la tête des joueurs, ça joue peut-être que on doit jouer contre Saint-Trond, on doit jouer à l'Antwerp, c'est, com-